Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Bienvenue, 8h38, on passe à la revue de presse avec Benjamin Glaise. Qu'est-ce qui fait parler ce matin ?
Oui, et tout d'abord, une certaine décrue amorcée sur le front de l'épidémie Covid-19 à la une de la montagne.
Oui, décrue amorcée au CHU de Clermont-Ferrand, en l'occurrence, qui, comme au niveau national, voit le nombre d'hospitalisations baisser de nouveau. La montagne précise que ce vaisseau amiral de la prise en charge des patients Covid-19 en Auvergne a été beaucoup plus impacté par la seconde vague. La situation qui reste fragile d'ailleurs dans les EHPAD où les gériatres invite à la responsabilité de tous pour ne baisser ni la garde ni le masque en famille, je cite, ces barrages qui empêcheraient un rebond épidémique après les fêtes, comme l'indique la montagne. En attendant, eh bien, les bars et les restaurants restent fermés et ils se rebiffent, nous indique Midi Libre. En une, on découvre eh bien, l'un d'eux taper deux casseroles pour faire du bruit, pour exprimer sa colère. Emmanuel Macron a douché leurs espoirs mardi eh bien, en affirmant qu'il resterait fermé au moins jusqu'au 20 janvier. Et du coup, eh bien, il continue de manifester. Et ce sera le cas hein, ce jeudi à Marseille pour les restaurateurs du Sud.
Oui, le jour de sortie de vos hebdos, il y a par exemple Barack Obama à la une de Paris Match. Hein.
Oui, ma carrière n'est pas finie, c'est ce que lance l'ancien président des États-Unis qui continue sa tournée promotion de ses mémoires. Alors, on parle là de carrière en tout cas d'écrivain qui n'est pas finie. En tout cas, Obama qui revient sur sa présidence, je n'ai jamais cru que le racisme serait enrayé par mon élection, explique celui qui estime par ailleurs que Joe Biden incarnera une forme de retour au dialogue et à la tradition multilatérale des États-Unis. Et puis, on va reparler.
On va reparler aussi de Le Point dans un instant.
Hein, oui. Oui, mais allez-y, oui. Un autre sujet dont on va reparler avec l'équipe cette fois-ci, c'est le décès de Diego Maradona. À la une aussi de nombreux journaux hein, ce matin. Céleste titre son roman Libération. Adios pour l'indépendant catalan qui évoque la mort d'un mythe, une légende pour Sud-Ouest qui parle de l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Sud-Ouest avec cette photo en une, celle de Maradona portée en triomphe, brandissant la Coupe du Monde de 1986 qu'il avait conquis avec l'Argentine à Mexico à l'issue d'une finale remportée face à l'Allemagne de l'Ouest 3-2.
Bah absolument. Alors je disais, on va parler en fait du point dans un instant avec un titre qui va parler en fait à tout le monde, bien sûr, avec Étienne Jernel, mais avant ça aussi, priorité à cette actualité qui est intervenue hier soir avec la disparition donc de Diego Maradona à 60 ans. Frédéric Varinguet est avec nous, rédacteur en chef à l'équipe. Bonjour à vous.
Bonjour.
Évidemment, c'est le sujet en fait pour vous et qui va sans doute vous tenir quelques jours, hein, la disparition d'Alpibé, d'Euro.
Probablement, oui. Bah c'est vrai que dans le monde du sport, ce qui s'est passé hier, c'est quand même une déflagration.
Oui.
C'est un événement évidemment qui dépasse tout.
Oui. Pourquoi qui dépasse tout en fait sur Maradona?
Parce que Maradona, c'est un personnage hors norme, c'est un personnage comme il en existe peu, je pense, aujourd'hui sur la planète, au-delà du sport. Je pense qu'il y a quelques très très grandes personnalités comme ça qui ont touchent à l'universel, quoi.
Ouais, ouais.
Dans le sport, je pense qu'aujourd'hui, voilà, vous avez peut-être Michael Jordan et puis voilà, quoi. Ce sont des gens qui ont dépassé depuis longtemps leur simple qualité de sportif, quoi. C'est ce qu'on dit en anglais, des bigger than life. C'est des gens qui sont c'est des personnages assez presque monstrueux d'une certaine manière.
Ouais. Donc vous y revenez en fait évidemment beaucoup largement. Qu'est-ce qui frappe ce matin justement, qu'est-ce qui va toucher les lecteurs de l'équipe qui vont se précipiter pour acheter le journal?
Bah écoutez, on consacre 19 pages à Maradona.
Donc bon, voilà. Sur combien?
Sur 19.
Sur 40 pages, mais
non, ouais.
Le truc c'est que bon, évidemment, on avait anticipé l'événement. On savait depuis un moment que Maradona était pas dans une très grande forme.
Non, ça c'est
donc,
vrai.
Donc voilà, et puis pour des personnages de ce niveau-là, évidemment, on se prépare.
Ouais.
Non, mais écoutez, voilà, on essaie de regarder Maradona un peu par toutes les facettes. Le joueur, bien sûr, le footballeur extraordinaire et génial qu'il a été. Et puis sa dimension romantique, sa dimension politique, l'entraîneur qu'il a été, médiocre, le personnage sulfureux, Naples, enfin voilà, c'est Maradona, c'est un roman, c'est une histoire, c'est fabuleux, c'est mieux qu'un film.
Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, complètement, d'accord, en fait, avec vous. Ça a commencé quand il était gamin à 8 ans, hein, c'est ça, où la télé, en fait, argentine a commencé à s'intéresser à ce phénomène. Et jusqu'au bout, évidemment, on s'est intéressé à ce phénomène qui était Maradona, pas ordinaire. Merci, hein, Frédéric Varinguet. Bravo, en tout cas, 20 pages, enfin 19.
Et elles sont magnifiques, matin, consacré... hein, je les ai lues.
Oui, bien
matin,
sûr. Oui. Bah, oui, vous m'avez piqué l'équipe.
Bah oui, en fait, jetez-vous dessus.
Non, mais vous voyez. Mais merci, hein, Frédéric Varinguet, donc d'avoir été avec nous ce matin. Étienne Jarnel est avec nous aussi, directeur du Point. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Bon, vous aussi, vous aviez de l'admiration pour Maradona ou pas?
Ah oui, formidable. Ouais. Des joueurs incroyables. Et puis cette part de vif, c'est quand même amusante et excitante, il faut bien le dire.
Oui, non mais totalement. Alors, autre dossier, et particulièrement excitant, parce que je pense qu'évidemment, tout le monde y fait référence. Amazon, Google, Facebook, et vous posez cette question en une, sommes-nous leurs esclaves?
Et oui, c'est la grande question. Est-ce qu'on peut en sortir? Le principe de l'esclavage, c'est qu'on n'est pas libre.
Ah, ouais.
Et ben, c'est pas évident. Essayer de sortir de Google. Ouais. Moi, j'ai essayé d'ailleurs, personnellement, DuckDuckGo, etc. Ben, c'est pas évident. En fait, c'est moins bien. Ils ont un monopole. Ouais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Ben, ouais. Les gens savent pas toujours, mais c'est la même boîte derrière. Ouais. Les mêmes données. Et puis Amazon, vous savez, il y a un petit trait qui dit « Ah, on n'est que 1% du commerce de détail », ce qui est à la fois vrai et totalement trompeur, parce que dans le commerce en ligne, ils sont beaucoup plus gros, hein, près de 50% des États-Unis, en France, on dit 20 ou 30%. Et puis derrière, il y a le monopole dans les nuages, hein, c'est le Amazon Web Services, avec toutes les boîtes qui recourent au cloud d'Amazon. Et de fait, ils ont une position dominante. Maintenant, ils ont les données des PME françaises et des PME européennes et des grandes boîtes françaises et européennes qui sont logées chez eux en majorité. Est-ce que c'est normal? Ouais. Bah, ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut le retourner, tout ça?
Ouais, ça, c'est vrai. Alors, il y a un dossier, en fait, qui est intéressant, où à chacun sa galaxie, et vous montrez, je vous le conseille, hein, parce que on voit d'Amazon et puis l'ensemble en fait de la ramification qu'il y a derrière, Facebook aussi, vous l'avez dit, Instagram, WhatsApp, Messenger, les services bancaires, l'intelligence artificielle, c'est la même chose pour Google, partout, etc. Tout ce que l'on fait aujourd'hui, évidemment, est lié à ces grands, à ces GAFA. Et vous dites, et vous posez la question à Thierry Breton, qui est le commissaire européen, est-ce qu'on peut continuer avec cette omnipuissance? Et il vous répond que bah, le démantèlement n'est pas un tabou, hein.
Oui, il dit que c'est l'arme ultime, en quelque sorte, hein, contre les monopoles, parce que c'est ça le sujet. Hein. Alors, c'est pas là, il veut d'abord réguler, il a un certain nombre de plans pour réguler sur divers aspects. Les GAFAM, d'ailleurs, les GAFAM n'est pas forcément le bon terme, hein, c'est surtout Amazon, Google et Facebook qui sont le plus gros. Amazon, Apple et Microsoft ont moins cette volonté de devenir des monopoles, cette aspiration au monopole. Et le sujet, c'est ça qui est intéressant. Souvent, on pense que c'est une histoire de gauchiste, la lutte contre les GAFAM, d'anti-américains, etc. Mais pas du tout. Les vrais philosophes libéraux détestaient les monopoles. Ce sont les Américains qui ont inventé l'antitrust. Ce sont eux qui ont détruit la Standard Oil, AT&T, etc. Et qui les ont coupés en morceaux. C'est un vrai sujet de libéralisme et de capitalisme. Au contraire, le sujet, c'est comment sauver le capitalisme des monopoles. Ça, c'est le vrai danger, c'est le monopole. C'est Frédéric Bastiat qui dit ça. Ça fait un transfert d'une poche à une autre, mais il s'en perd toujours au passage. Les monopoles, c'est mauvais pour l'économie.
Ouais, et vous dites d'ailleurs, c'est une menace majeure pour le capitalisme. Ça, c'est Nicolas Bavrez qui le dit. Donc, absolument. Comme quoi, c'est pas que les.
Effectivement.
Oui, absolument. Merci beaucoup, Étienne Jarnel, d'avoir été avec nous pour ce dossier qui est passionnant, comme évidemment est passionnante la une ce matin de l'équipe et puis des journaux. Il y a énormément de choses pour ceux qui ont un peu de temps, etc. Et si vous pouvez encore acheter les journaux papier, évidemment, vous pouvez lire en ligne, mais c'est toujours en fait aussi une bonne chose de soutenir la presse au passage. Je le souligne quasiment
tous les
une
jours.
Fois par semaine. Non, pas tous les jours, mais régulièrement, parce qu'il le faut quand
presque
même.
Tous les jours. Dans un instant, c'est le petit déjeuner de l'actu. Françoise Degout, Elisabeth Lévy, Eric Revel. Vos appels 0826-300-300. Et on va revenir sur les bars, sur les restaurants, sur Maradona, bien entendu.
Oui.
Et vous pouvez bien entendu participer à ce débat ce matin.
Oui, oui. D'un mot, parce que vous vouliez souligner l'image politique, Françoise de Goy, de Maradona.
Oui, ça devient un objet politique. Ça a toujours été un objet politique. On sait que Maradona... D'ailleurs, c'est très marrant, on parle de toutes les unes ce matin. L'humanité fait sa une, adios compañero. Oui, oui. C'est-à-dire adieu compagnon. Maradona, il est toujours resté fidèle, en fait, à ce socialisme, à la sauce latino-américaine, c'est-à-dire un peu marxiste. Alors, il a aussi des gens pas très fréquentables hein, qu'il a fréquenté, Kadhafi, Ramzan Kadyrov, le dictateur de Tchétchénie, mais il y a toujours eu quelque chose chez lui de profondément social, de très anti-américain. On se souvient de cette image incroyable où il monte à la tribune d'un meeting de Chavez en disant il faut détruire les États-Unis. Donc il y a ces excès, mais au-delà des excès que moi je ne partage pas, on ne peut que partager le fait que cet homme est toujours resté près du peuple en réalité. Oui. C'est pour ça que planétairement il est aimé. Quand il va à Naples, c'est une ville que j'adore, où je vais très souvent parce que Rome, Naples, c'est pas loin. Vous avez du Maradona partout, mais pas parce que, bien sûr parce que c'est un génie du football, mais parce qu'il était véritablement cet homme sorti de nulle part et qui a redonné la fierté à ce peuple italien du Sud. Donc très admiratif de ça,
Elisabeth Lévy, grande connaisseuse du
football.
J'ai
été très intéressée par ce que Françoise vient de m'apprendre sur Maradona, sa carrière latino-américaine. Non, mais moi je suis frappée par le fait que c'est en même temps, alors Françoise a raison, c'est un personnage politique, mais en même temps c'est un mythe, quoi. C'est Marilyn Monroe, c'est Brigitte Bardot, si vous voulez. Il y a quelque chose d'assez frappant dans le fait que, par exemple, on voit bien qu'après, à la fin de sa vie, il était tout de même, il y avait une certaine déchéance, ne serait-ce que physiquement, si vous voulez. Et ça ne lui a pas du tout aliéné non seulement l'affection, mais l'affection peut-être pour l'enfant du peuple, comme disait Françoise, mais aussi tout de même la fascination pour le mythe. Il est resté, alors que, je sais pas, est-ce qu'il joue encore au football, Patrick?
Il entraînait.
Une des dernières images, en tout cas en Europe, c'était en 2016 à Paris, il était venu pour la promotion du football. Mmh. Et bon, il se déplaçait sur 3 mètres, quoi, c'est tout. Quoi. Il avait beaucoup de difficultés.
Les gens, si vous voulez, l'émotion qu'on nous raconte là, en Argentine, etc., les gens qui saluent son cercueil comme celui un peu d'un dieu vivant, si vous voulez, ils ne voient pas ça. C'est pas ça qu'il est. C'est resté pour eux une espèce de... C'est vraiment, il y a une mythologie. Ça me frappe parce qu'il y a quand même très peu de gens qui accèdent à ça. Pardon, Cécile.
Juste pour vous nourrir, vous savez qu'il y a une église maradonienne qui existe réellement, où les gens viennent se recueillir.
En Argentine.
C'est un culte.
Non, mais allez voir le musée Maradona si vous allez à Naples. Hein, c'est fascinant. Vous avez des murales, ce qu'on appelle les murales en Italie. Mmh. Mais ça vous passionnerait, ça. Elisabeth, sociologiquement et politiquement, c'est fabuleux de voir que Naples est encore entièrement, 30 ans après, entièrement dédié à cet homme qui a rendu la fierté à l'Italie du Sud.
Et on le disait tout à l'heure aussi à 7h30, évidemment, ça a été un des grands regrets de Bernard Tapie, de ne pas réussir à faire venir Maradona. Il a essayé, il a envoyé Michel Hidalgo, etc. C'était vraiment, comme on le disait, à deux doigts. Parce qu'il aurait collé, à une main, la fameuse main de Dieu.
Il aurait collé à Marseille. Oui,
il collait en fait complètement à Marseille. Et donc, c'était le rêve de
Alors, ça a failli basculer. Oui. Ça manque de basculer, parce qu'à un moment donné, Maradona est tellement victime de la passion des Napolitains, et lui-même est tellement dévoré et dévorant de cette passion, qu'il vit complètement enfermé chez lui. Il vit avec les volets fermés parce que tout le monde veut toucher Maradona comme on toucherait Dieu. Et Hidalgo manque de le convaincre, pas Anne Hidalgo, Michel. manque de le convaincre. Non, c'était juste une petite pique sympathique pour mon amie Elisabeth. Manque
c'était
de
pour
le convaincre.
Voir si je suivais.
Manque de le convaincre en lui disant tu sais, Diego, à Marseille, tu auras la paix. On va t'offrir une villa sur les hauteurs de Marseille. Tu
Cassis,
pourras te déplacer à Cassis. Oui, à Cassis.
Ouais, Cassis.
Et là, il hésite un petit peu et finalement, il ne peut pas quitter Naples.
Oui, absolument.
Et le Che Guevara tatoué sur un bras et Fidel sur l'autre.
Ces deux grands héros, ils l'ont dit, c'était Fidel Castro et le Che. Et vous avez parlé en fait de l'église. C'est vrai qu'il avait un rapport particulier avec l'église aussi, puisque lui venait des quartiers populaires où on le croyait beaucoup en fait en Dieu, etc. Et il dit un jour, il dit, je me suis fâché avec le pape parce que je suis allé au Vatican quand il était justement en Italie. Et là, il a vu le plafond qui était recouvert d'or et il s'est dit, dit, mais c'est pas possible. On nous dit que l'Église se préoccupe des plus pauvres, mais putain, mec, c'est ce qu'il a dit en fait au pape. Il est, alors, je le dis pas en espagnol, vole-toi, fais quelque chose pour tout le monde, quoi. Et là, il avait eu comme une césure, en fait, avec.
Pas avec Papa Francesco.
Ah bah non, mais qui est un pape argentin.
Pape argentin qui adorait Maradona et qui a d'ailleurs fait savoir qu'il priait tous les jours pour lui. Mais avec le pape précédent, oui, c'est vrai.
Bien sûr. Il disait, puisque vous avez évoqué la politique là, tout à l'heure, j'ai un avantage justement sur les politiques. Eux, ils sont publics, moi je suis populaire. Ça, c'était du Maradona, donc avec toutes ses facettes, quoi. C'est-à-dire qu'il était capable de vous sortir des choses complètement incroyables, quoi. Quand il est venu pour le jubilé de Michel Platini en France, c'était en 1987, ouais. Il est venu, donc il a dit à Platini, ok, je viens, etc. Il arrive, il va dans le vestiaire, c'était à Nancy, c'était organisé par notre ami Jacques Vendroux. Il va là-bas et il dit, non, mais je suis pas en forme. Je suis pas en forme, je vais pas jouer. Alors qu'il avait... Non, mais il s'était quand même déplacé, etc. Et donc, il dit à Platini... Platini, quand même, exaspéré, quoi, en se disant, bon, il vient... Il dit, non, mais donne-moi une orange, je vais aller jongler devant le public, parce qu'il était assez incroyable. Je vais jongler devant le public pendant quelques minutes et ça va aller. Oui, ça va aller. Et Platini lui dit, non, mais tu peux pas me faire ça, joue un quart d'heure, 20 minutes, et ça va. Bon, il a dit, ok. Donc là, problème, c'est qu'il n'avait pas apporté ses chaussures.
Et on sait à qui il les a piquées.
Oui, il les a piquées à JPP.
À Jean-Pierre Papin.
Jean-Pierre Papin qui est retourné à l'hôtel chercher ses chaussures, qui lui a donné. Et il est venu jouer. Et alors, sa fameuse douleur, etc., elle avait disparu sur le terrain. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, il n'a pas voulu ressortir.
C'est ça. Non, mais c'est marrant que vous racontiez ça à des personnalités aussi disruptives. Ouais. C'est exactement. Je pense que je rebondis sur ce que disait Elisabeth. J'imagine n'importe quelle politique damnerait son âme pour avoir 1% de la fusion de cet homme avec le peuple planétairement. Ce matin, je suis allé acheter des clopes dans un bureau de tabac avec un couple chinois, tenu par un couple chinois. Tout le monde était collé devant BFM et LCI et CNews et tout le monde disait Maradona. C'est hallucinant l'attention planétaire pour cet homme.
Je suis pas sûr que ça soit si que ça facilite tant la vie que ça. Françoise, vous dites que les politiques adoreraient ça, mais c'est une servitude terrible d'être idolâtré.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous devenez un objet. C'est une question
de pas s'appartenir.
C'est vrai. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure avec Pascal Desperroux qui sera avec nous, l'ancien milieu de terrain du TFC, qui a affronté justement Maradona. Absolument, bien sûr. C'était l'exploit à l'époque. Bien sûr, du TFC contre Naples et Diego Armando Maradona avec Tarantini, avec en fait beaucoup d'autres joueurs. On y reviendra tout à l'heure à 9h. Si vous avez des anecdotes, d'ailleurs, vous nous appelez 0826-300-300, nous y reviendrons à 9h, comme hier, il y avait évidemment l'hommage aussi à Christophe Dominici. On y pense en fait toujours aussi, Diego Armando Maradona. Les auditeurs qui ont la parole aussi, il nous reste quelques minutes, c'est Olivier de Montpellier qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bon, pour parler d'un autre sujet, Olivier.
Oui.
C'est l'incertitude, vous, autour des tests PCR, c'est ça ?
Le test PCR, la vaccination, ça me pose beaucoup d'interrogations. En plus, je travaille dans le milieu, donc je connais beaucoup de choses.
Oui.
Je suis confronté à plein de problématiques. Et il y a un de mes copains, on en avait parlé, et qui est passé à l'acte. On avait un gros doute sur les tests PCR. Ça s'est pas arrangé après ce petit test qu'on a fait. Il n'a rien dit. Je lui avais soumis une idée et il a pris son infirmière. Il a fait faire 4 tests.
Oui.
4 analyses sur 4 labos différents.
Ah oui.
Et retour de ces analyses.
Et bah, retour quoi ? Pardon, on a
retour des analyses.
Retour des analyses. Deux positifs, deux négatifs.
Ah ouais.
Alors on dit aujourd'hui 4 à 5% de tests positifs.
C'est vrai.
Moi, le problème, c'est que ce genre de petits tests qui ne coûtent rien et qui donnent une bonne idée, j'ai l'impression qu'on n'est pas à 4-5% de tests positifs ou négatifs. Je pense que la marge d'erreur est beaucoup plus importante que ça.
Ouais.
Ils ne sont pas forcément plus fiables. Donc, asseoir toute une politique, je dirais sanitaire sur ce genre de choses et derrière une catastrophe économique annoncée, je trouve que ça fait un peu léger de la part de nos dirigeants, pour pas dire incompétents.
Ouais. Bah, c'est un peu faute de mieux, et c'est à l'échelle quand même un peu mondiale, quoi, hein, Olivier. Hein.
Ah oui. Bon, alors c'est maintenant, il y a les autres tests qui arrivent. Ouais. J'attends de voir les autres tests. Mais bon, si les tests ne donnent pas déjà satisfaction, et derrière, je dirais, on programme d'ores et déjà une campagne de vaccination sur des choses qui n'ont pas été prouvées, ni sur des essais.
Ouais.
Quand on voit qu'un vaccin, normalement, met 10 à 15 ans, je vais donner un exemple, l'hépatite B, avec derrière les conséquences de certaines pathologies comme les scléroses en plaques qui sont sorties à gogo derrière, comment peut-on se faire vacciner quand un vaccin va arriver sur le marché qui n'a pas forcément de test?
Bah, ils ont fait un peu.
Et derrière, quelle problématique ça va générer?
Oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, alors, ils auront fait quand même des campagnes de tests, d'essais, etc. Mais alors, après, on manque de recul. Ça, c'est clair. Bon, mais.
On va sortir un vaccin un an. Bah, alors que même après 10 ans sur l'hépatite B, on a eu des gros problèmes.
Ouais.
Moi, j'ai un gros doute là-dessus. Mmh. Alors, si nos politiques nous poussent à nous vacciner, je veux bien nous vacciner.
Non, mais ce ne sera pas de la vaccination obligatoire.
Bah, ça, c'est bien qu'il ait clarifié, Emmanuel Macron, l'autre soir.
Ouais, hein. Moi, je vais juste émettre une petite idée au niveau de la vaccination.
Ouais.
Si nos politiques nous incitent tellement à nous faire vacciner, qui se vaccine d'abord, on attend 2 ans, et puis ceux qui restent en vie, ceux qui restent en vie, on les garde en dirigeant. Ouais. Ceux qui sont morts, tant pis, on n'en parle plus.
Bon, ouais. Bon, je ne sais pas si on ira jusque-là. Merci en tout cas, Olivier. Merci. Mais c'est vrai, il y a de l'incertitude sur les tests PCR, sur beaucoup de choses. De toute manière, rien n'était complètement exact, en fait. Hein, dans la médecine, il y a toujours des
J'entends
petites...
J'entends ce que dit Olivier, mais je serais curieuse d'entendre Elisabeth là-dessus.
Non, on n'a pas le temps. Hein,
je voulais juste dire que...
Vous l'appellerez hors antenne. Ouais.
Non, mais c'est pas ça. C'est que s'il n'avait pas fait ça, le même Olivier serait peut-être en train de nous appeler pour dire que le gouvernement est responsable de millions de morts, non ?
Non, mais c'est sûr. Il faut chercher, puis on verra. Voilà. Bon, mais je comprends, en fait, en même temps, le scepticisme. Allez, dans un instant, le point sur les infos, et puis restez avec nous. On viendra, bien sûr, sur Maradona, mais également aussi sur les cafetiers, les restaurateurs, avec ce grand rassemblement qui est prévu en début d'après-midi à Marseille, tout le Grand Sud qui se retrouve là-bas.
Un maire,
et puis un patron d'hôtel. Parce que les hôtels, eux, ils ne sont pas fermés, mais ils restent ouverts. Cela dit, il n'y a personne. Donc c'est un vrai problème pour eux. Témoignage tout à l'heure.
Restez avec nous. Tout de suite, le journal de 9h.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et pour rendre hommage ce matin à Diego Maradona, Pascal Desperroux est avec nous, ancien footballeur professionnel à Toulouse. Bonjour.
Bonjour à tous.
Oui, merci Pascal Desperroux d'être avec nous, parce que je sais que vous êtes énormément sollicité depuis hier, parce que, évidemment, Maradona, vous l'avez affronté, vous l'avez vu, vous l'avez côtoyé sur le terrain quand il y a eu ce match, cet aller-retour assez incroyable entre Toulouse et donc Naples, battu là-bas, vous réussissez l'exploit. Comment il était, justement, Maradona, quand il rentrait sur le terrain comme une équipe contre vous, Toulouse?
Écoutez, c'est vrai, en 86, on a eu la chance, on a été la seule équipe française à affronter une équipe où Diego Maradona a évolué. Ouais. On a eu la chance avec Toulouse de jouer ce mythe, quoi, cette légende. Ouais. Voilà, on rappelle, c'était quand même un mythe, voilà, c'est-à-dire un des plus grands joueurs avec Pelé et Cruyff et peut-être Platini ou Zidane, si on est français.
Ouais.
C'était une émotion, le stadium ça rappelle encore, parce que il venait d'être champion du monde avec l'Argentine en 86, et on l'a joué, 80 000 personnes à Naples, 80 000 dans le stade, mais il y en avait autant dehors, je vous assure, et tous avec l'effigie, le drapeau, c'était une grande messe où Diego en était le roi, j'allais dire, et c'est vrai que c'est une vraie émotion ce matin, un petit peu de voir tout ce peuple argentin enterré, accompagné à sa dernière demeure, Diego.
Pascal Desperroux, quand on affronte Maradona et qu'on est face à lui, avec le ballon ou sans le ballon, et que lui arrive avec le ballon, il y avait du respect, un petit peu d'intimidation au début ou pas, chez vous?
Oui, bien entendu. Moi, j'avais 20 ans en plus. Donc, bah, vous vous rendez compte, je suis passé du poster en tant qu'adolescent à un jour à pour ma première année professionnelle sur un match de Ligue des Champions d'aujourd'hui, en fait. À affronter le meilleur joueur du monde. En plus, c'était une vraie personnalité, un meneur d'hommes. Il faut sentir ça. Il était le chef d'une délégation de l'Italie du Sud à la quête de contre l'Italie du Nord. Voilà, Naples était en construction et je vous l'ai dit, il était formidable. Il a un centre de gravité très bas, 1m66, un petit peu comme Alain Giresse, mais des qualités de dribble virtuoses avec sa patte gauche, des images, une vraie personnalité. Et pour autant, autour du vestiaire avant le match, c'était quelqu'un de très bienveillant.
Ce n'était pas un chambreur.
Non, pas du tout. Il avait un respect profond pour les joueurs. Peut-être pas pour les dirigeants. Ça s'est avéré par la suite par des déclarations fracassantes. Ouais. Mais pour les joueurs, il avait un respect formidable. Alors en plus, on avait deux Argentins à l'équipe de Toulouse, Alberto Tarantini et Beto Marsico. Ouais. Et comme j'étais très proche d'eux, j'ai eu la chance, l'honneur de pouvoir discuter 5 minutes. Et je vous l'ai dit, je me rappelle de cette tête-là, magique, avec cette bienveillance, cette gentillesse naturelle. Parce qu'il y avait deux Maradona. Il y avait Diego, un père aimant, avec ses deux filles aujourd'hui à qui je rends hommage, son épouse qui a été fidèle malgré des frasques incroyables, et puis un clan Maradona, et pour autant vous aviez quelqu'un qui avait un respect profond pour le jeu, pour les acteurs du jeu.
Est-ce que, alors vous avez dit tout à l'heure, quand on est français, oui, on a Zidane, Platini, etc., mais vous le portez où, au Panthéon? C'était le meilleur, c'est difficile de les comparer avec Pelé, avec Messi aujourd'hui et Ronaldo?
Ouais, les Italiens appellent ça Fluoriclass. C'est-à-dire, c'est le restaurant panoramique, là. Vous êtes Pelé pour une génération. Pour celle de mon père, ça a été Pelé. Pour la mienne, forcément, Diego et Cruyff. Maintenant, c'est vrai que Diego avait cette particularité d'être, je vous l'ai dit, un dribbleur extraordinaire. Et puis d'avoir amené l'Argentine en 86 à des sommets insoupçonnés. Ouais. Voilà. Alors, il y a bien sûr ce but controversé de la main de Dieu, qui est le raccourci un peu de la vie de Diego. Ouais. Mais le puriste, je vous le dis, en tant que petit footeux, on avait un respect énorme pour ses capacités d'élimination, ce dribble 90 fois international, et puis un buteur. Voilà, je crois qu'il a quand même été deux fois champion d'Italie, champion du monde, il a eu plusieurs ballons d'or. Voilà, puis c'était le personnage qui quelque part, avec ses excès, mais qui était différent du monde du football.
Ouais, et ça ne vous a pas empêché quand même aussi de réussir l'exploit, Pascal Desperroux. Ça, il faut quand même s'en souvenir. Et Maradona, au tir au but, mon souvenir est bon, il se plante, il tire sur le poteau, c'est ça?
Ouais, alors il venait, je vous l'ai dit, d'être champion du monde. Je ne sais pas s'il était véritablement encore prêt là, à ce moment-là. Je crois qu'il avait tellement fêté le titre à l'Argentine. On voit, il va y avoir 3 à 4 millions de personnes dans les rues de Buenos Aires aujourd'hui. Faut connaître un petit peu. C'est un personnage incroyable sur tout le continent sud-américain. Oui, ben c'est lui du reste. On se qualifie parce que lui rate le pénalty pour Naples. Il tire sur le bon temps, ça rebondit sur la cuisse du gardien Philippe Bergerot et ça sort. Et là, ça délivre 40 000 personnes à Toulouse. C'était un exploit, mais je pense que l'âme de Diego est encore un petit peu à l'intérieur du stadium parce que depuis, forcément, le public toulousain, le public occitan, se rappelle de sa venue. Je me rappelle, nous sommes le seul public en France à avoir eu le privilège de voir évoluer au moins 90 minutes Diego Maradona.
Non mais c'est vrai, alors que Marseille, par exemple, on le disait, on le racontait tout à l'heure, Tapie rêvait évidemment d'engager Maradona, puis ça ne s'est pas fait, quoi. Il aurait collé à Marseille,
Et il souhaitait, parce qu'au bout de 7 saisons à Naples, il a gagné la Coupe UEFA aussi, donc il souhaitait un autre défi, et malheureusement ça n'a pas pu se faire. Ça lui aurait certainement évité ces problèmes, puisqu'on rappelle quand même que Diego Maradona finit sa carrière suspendu par la FIFA de toute activité pendant un an, puisqu'il avait été contrôlé, bien entendu.
On se souvient de cette image, il prend la caméra.
La caméra quand il sort. S'il était venu à ce moment-là, c'est dans le cratère méditerranéen qui était Marseille, avec Tapie comme président, un effectif incroyable. Je pense que la France aurait eu le privilège de voir un Diego sur sa fin de carrière, et ça reste un regret.
Pascal, est-ce qu'il vous avait dribblé? Vous pouvez nous le dire, il vous avait dribblé ou pas pendant le match? Je m'en souviens plus.
Si. Alors, je dois préciser que, si vous voulez, je crois que Jacques Santini, qui était entraîneur à ce moment-là, avait eu l'intelligence tactique, et ça fait partie peut-être du résultat. Il m'avait déplacé, c'est pas moi qui ai été au marquage de Diego, parce que je faisais 1m88, donc 20 cm de plus. J'avais 20 ans, et malheureusement, je pense que j'aurais peut-être pas terminé le match, quoi.
C'était
un joueur d'élimination. Voilà, c'est vrai que j'ai eu, malheureusement, un geste un petit peu défensif et agressif sur lui. Mais je vous assure, pour avoir un respect profond pour cette grinta argentine, ça restera gravé à moi d'un jour d'avoir croisé la légende, quoi.
Ouais, c'est vrai. On peut rappeler l'équipe, hein, Bergerot, Ruti, Tarantini, Thiel, Lestage, Durand, Despero, Passy, Bellus, Marsico et Stopira, Yannick Stopira, évidemment.
Il y avait une équipe énorme, mais il y avait 9 internationaux italiens à Naples. Et on le sait aujourd'hui, je vous encourage à prendre 1h15 de votre vie à regarder le documentaire qui passe actuellement sur Canal+, sur la vie à Naples de Diego.
Ouais, c'est vrai.
Et moi, je sais que j'ai été invité au cinéma à une avant-première. Je n'ai pu, pendant 30 secondes à la fin du film, avoir vraiment quelques larmes qui me montent, parce qu'on se rend compte que la Camorra l'a flingué, quoi. Il est tombé aux mains de la Camorra, et malheureusement il a mal fini. Mais pour autant, on ce matin, je crois que c'est pas le temps des regrets, c'est surtout le temps de l'hommage. J'ai une pensée particulière encore une fois pour sa famille.
Vous nous avez fait vibrer, Pascal Despérou, merci beaucoup.
Merci Pascal Despérou d'avoir été avec nous.
Votre invitation.
Allez, dans un instant on va continuer, hein. On va parler des restaurateurs, des hôteliers, bien sûr. On va aller à Cahors aussi tout à l'heure. Et puis Marcel Benezet aussi, bien sûr, sur les cafés, les restos. Vous pouvez nous appeler et témoigner 0826-300-300.
Il a tout dit, à tout de suite. 9h.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Bienvenue, il est 9h19, on va parler d'une la mairie de Cahors qui aide et qui va aider ses commerçants à traverser la crise. Avec nous pour en parler, justement, le maire Jean-Marc Vessousfort, qui est président aussi du Grand Cahors. Et puis on va parler aussi des cafés, des brasseries, avec Marcel Benezet, qui est président justement de cette branche des cafés, bars, brasseries du GNI Sinorca.
Oui, absolument, parce que c'est l'un des points majeurs quand même. Il y a bien sûr les brasseries, les restaurants, mais il y a aussi les cafés. Marcel Benezet, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Merci donc aussi au maire de Cahors d'être avec nous. On va prendre votre parole en fait dans un instant. Juste Marcel Benezet, c'est vrai qu'on parle beaucoup des restaurateurs, un peu moins des cafetiers, qui eux, pour le coup, n'ont pas de perspective là pour l'instant. Marcel Benezet.
Aujourd'hui, pour les restaurants, on a un cap qu'on pourrait supposer. On a un cap, bonjour, qui pourrait se supposer à partir du 15-20 janvier, mais pour là, on n'a pas parlé des bars. Les bars, à mon avis, ne seront pas ouverts avant le mois de février, voire peut-être le 15 février. Et tout dépendra, parce que là, nous allons partir le 15 décembre. Les gens vont pouvoir se déplacer, vont partir en famille. Quand ils vont revenir le 10 janvier, on va peut-être s'apercevoir que la jauge a monté un petit peu, que l'épidémie s'est développée un petit peu. Et puis, nos restaurants ne seront pas ouverts et les bars n'en parlons pas. Discothèque, alors on n'en parle même plus. Aujourd'hui, la situation est très grave. Vous avez des chefs d'entreprise qui sont fracassés. Moi, je vous assure, je les vois. Ils sont dans une machine, comme un...
La ligne n'est pas très bonne.
Aujourd'hui, c'est un peu... Vous m'entendez pas bien.
Oui, non, on vous entend pas très bien. Jean-Marc Vessousfort, à Cahors, justement, vous le voyez, ça. Vous le vivez, en fait, au quotidien, parce que vous essayez de leur venir en aide, enfin, à tout le monde, bien sûr, concerné par le Covid et la crise sanitaire, mais les brasseries et les bars, quoi, bien sûr.
Oui, bien sûr, on est touché par ce sentiment d'injustice des commerçants, par cette volonté aujourd'hui qu'ils ont de travailler. Ils ne veulent pas se contenter d'aide. Et pour le maire que je suis, ce serait aussi une catastrophe d'avoir demain une ville où un commerce sur deux serait fermé. On a fait des efforts considérables pour préserver notre commerce de centre-ville. On a conscience que ça fait partie de notre ADN, c'est un élément d'attractivité fort. Cahors, c'est 500 commerces en centre-ville aujourd'hui, c'est un taux de vacance qui n'est que de 7%, donc forcément c'est un élément d'attractivité. Et donc on est touché par ces difficultés, on dénonce les incohérences parfois, je pense que ça a été une erreur de fermer ces commerces. Il y a une incompréhension par rapport à la notion de commerce essentiel, pourquoi l'alimentaire, pourquoi pas le coiffeur, pourquoi pas les libraires. Donc il y a un vrai sentiment d'injustice et de révolte. Il faut y répondre. Nous, on est là pour les accompagner. On le fait, oui, par des aides, parce que quand même, il faut aussi qu'ils puissent traverser cette période difficile.
Qu'est-ce que vous mettez comme, en place comme aide? Je sais qu'avec la région, par exemple, Occitanie, il y a la prise en charge d'une partie des loyers, c'est ça, des commerces?
Oui, on avait vu que sur les mesures qui avaient été prises sur le premier confinement, certaines avaient été utiles, mais la question du loyer n'avait pas été réglée. C'est vrai qu'on aurait pu parfois espérer que le propriétaire du bâtiment puisse avoir une attitude un petit peu compréhensive. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc souvent, le loyer a été exigé alors que le commerce était fermé. Ça n'a pas été le cas des collectivités. Hein. Bon, chaque fois que j'avais un bâtiment qui était louer à un commerçant, j'ai fait la gratuité. Et donc, on a décidé avec la région de prendre en charge un mois de loyer qui est plafonné à 1000 euros pour leur venir en aide. Puis au-delà de ça, il faut ne plus rater. Désormais, les commerces seront ouverts à partir de samedi. Oui. C'est une période, on le sait, qui est décisive. C'est la période de Noël. Il faut aller consommer dans nos commerces. Nous, on fait un effort aussi sur le stationnement, puisque tout le mois de décembre, le stationnement en surface payant sera gratuit à partir de 16h30. Du 19 au 24, c'est tous les après-midi où le stationnement sera gratuit. Voilà, ce sont des mesures qui viennent s'ajouter au samedi après-midi qui était déjà gratuit, aux 30 minutes gratuites, au bus qui est gratuit. Bon. Tout un tas de mesures qui peuvent les aider.
Non mais c'est ça, oui. Mais j'imagine que le cœur de ville, quand même, sans les cafés, les restaurants, c'est un peu triste, quoi, ouais. Non?
C'est plus que triste, c'est désespérant, c'est plus la ville qu'on connaît. Ouais. Et je peux pas imaginer que demain on ait une grande partie de ces commerces qui mettent la clé sous la porte. Hein. C'est inconcevable pour le maire que je suis, ça serait catastrophique. On a vu cet été, c'était bien reparti. On a eu beaucoup de touristes notamment. On a eu beaucoup de personnes qui ont souhaité jouer le jeu. Les commerçants étaient plutôt satisfaits. Ils avaient récupéré un petit peu le retard. Et puis ça repart. Et c'est vrai que...
Et Marcel Benezet... Oui,
Marcel Benezet.
On vous entend très bien, là, Marcel Benezet. Voilà, merci, effectivement. Parfait. Est-ce que, justement, beaucoup risquent de mettre vraiment la clé sous la porte? Je pense, là, cette fois-ci, au bar, parce qu'on a beaucoup parlé des restaurants depuis un petit bout de temps, évidemment, des brasseries. Mais il y a les bars, les cafés simples qui sont des lieux de vie, en même temps, de rencontres. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les ferme, quoi, justement. Marcel Benezet, oui.
Nos bistrots, des bistrots, parce qu'aujourd'hui, la France des bistrots, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, eux sont en danger, parce qu'on ne sait pas, ils n'ont pas de date, ils n'ont pas d'objectif de réouverture. Et ils ont été fermés quand même depuis déjà un petit moment, bien avant les restaurants. Et aujourd'hui, le problème des loyers n'étant pas réglé, monsieur a raison, ils ont aidé beaucoup dans la province, beaucoup de mairies, et je les en remercie, ont aidé les cafetiers à payer le loyer, mais sur Paris, on n'a pas trouvé de solution. Aujourd'hui, le loyer reste une solution. On a un problème aussi, c'est les congés payés des salariés. On est en train de régler peut-être tout ça avec Bercy. Je pense sur les congés payés des salariés, on va trouver
Une solution avec Bercy. Oui,
trouver une solution, Marcel Benezet. Oui. Ah, on a un peu de mal avec votre ligne. Oui, bon, on a un peu de mal. Bon,
je vais vous quitter parce qu'en plus j'ai.
Bon, merci quand même. Bon, vous avez espoir. Est-ce que vous avez.
Merci beaucoup, excusez-moi.
Oui, bien sûr. Merci. Je disais, est-ce que vous avez quand même espoir d'une ouverture mi-janvier, fin janvier pour les bars?
Pour les bars, non, je pense pas. Pour les restaurants, peut-être, et encore, tout dépendra du retour de vacances.
C'est difficile.
Les réunions familiales ont propagé le virus. C'est moi, mais il faut que les Français soient vigilants et qu'ils prennent beaucoup de précautions. Parce que tout dépendra d'eux, le comportement des Français.
Il faut qu'on soit solidaires. Exactement. Oui,
ça, c'est vrai. Jean-Marc Vessouz, vous attendez pendant ces vacances des gens qui vont revenir à Cahors pour passer les fêtes en famille, bien sûr. Ça va être un moment assez important. Qu'est-ce que vous pouvez dire, justement, à la population qui viendra de prendre quand même au maximum ses précautions, même si elle continue de sortir, d'aller dehors, faire des courses et puis les achats de Noël?
Oui, on voit bien là où le virus se propage, c'est quand il y a des grands rassemblements, des fêtes de famille, lorsque à un moment donné, on oublie un petit peu les gestes barrières, le masque, la distanciation physique, donc il faut que chacun prenne ses responsabilités, mais la plupart d'ailleurs des personnes le font. Je pense que ça devrait bien se passer. Pour les commerces, c'est la même chose, il y a des protocoles qui sont assez stricts.
Ils sont très vigilants.
On comprendra aussi qu'on ne va pas s'agglutiner dans le commerce, on peut attendre parfois un peu à l'extérieur, revenir un petit peu plus tard lorsqu'il y aura un moment. Moi, je ne suis pas vraiment inquiet. travailler. Je compte sur la responsabilité de chacun et puis surtout qu'on fasse cet effort de soutenir nos commerces de proximité. Voilà, en évitant les achats par internet, sur les plateformes, et voilà, peut-être sur ce moment-là de faire un effort tout particulier pour aider nos commerçants. Je pense qu'il en va aussi de l'avenir de nos villes, de notre pays.
Ouais, merci en tout cas Jean-Marc Vessousfort, maire de Cahors et président du Grand Cahors, d'avoir été en ligne avec nous sur Sud Radio ce matin, et Marcel Bénézet aussi qui représente les bars et les cafés, les brasseries aussi. On va continuer de parler justement de cette problématique dans un instant, Cécile.
Oui, on va parler des hôtels, hein, parce que vous savez que les hôtels restent ouverts, seulement ils n'ont pas de clients. Et ben, on en parlera avec un propriétaire d'hôtel qui sera avec nous dans un instant, à tout de suite.